Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 8h à Beyrouth, 5h en temps universel.
Arnaud Pontus.
C'est RFI Matin, le journal avec Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Le Liban menacé de destruction comme à Gaza. Avertissement de Benjamin Netanyahou hier.
Avertissement et même provocation selon la diplomatie française. Le Premier ministre israélien menace donc le Hezbollah de frappes plus intenses. En réponse, le groupe libanais promet des raids élargis en Israël. Nous serons en direct de Beyrouth en début de journal. À peine remis de l'ouragan Helene, les habitants de Floride se préparent à une nouvelle catastrophe. L'ouragan Milton est attendu d'ici 24 heures aux États-Unis. Avec des vents jusqu'à 270 km/h, il pourrait être le pire cyclone du dernier siècle. 1 million de personnes ont été évacuées. Également dans ce journal, en Tunisie, tout juste réélu, Kais Saied pourrait accélérer son virage autoritaire. Et puis de la musique avec le nouvel album de Raïm Redkar, caméléon de la pop française.
12 morts au moins dans la bande de Gaza hier. Inlassablement, Israël poursuit ses frappes.
Dans l'enclave palestinienne donc, mais aussi contre le Liban. Les raids se sont poursuivis toute la journée d'hier contre le sud libanais où Israël a ordonné à la population d'évacuer dans des zones côtières, mais aussi contre la banlieue de Beyrouth, et l'État hébreu n'entend pas s'arrêter là. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exhorté hier la population libanaise à se libérer du Hezbollah, sans quoi le Liban connaîtra, a-t-il dit, des destructions et des souffrances comme à Gaza. Un ton menaçant qui a choqué une partie de la communauté internationale, notamment le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot s'est insurgé contre ce qui est, selon lui, une provocation. Mais la réaction la plus forte est sans surprise venue du Hezbollah lui-même. Le mouvement libanais menace d'élargir ses frappes à Haïfa et dans d'autres villes. Paul Khalifet, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Beyrouth. Après ces prises de parole, des troupes israéliennes ont essuyé des tirs d'artillerie du Hezbollah à la frontière.
Oui, les combats terrestres n'ont pas cessé toute la nuit, de même que les échanges de tirs d'artillerie et les raids aériens. Le Hezbollah a annoncé à l'aube avoir repoussé 2 tentatives d'incursion des troupes israéliennes à la frontière. Il affirme dans 2 communiqués séparés avoir fait sauter des charges explosives et tiré des roquettes contre des soldats qui avançaient dans les secteurs oriental et occidental du front. Le parti chiite a poursuivi le pilonnage des localités israéliennes à la frontière, ainsi que le nord d'Israël. Ces tirs avaient culminé mardi avec le lancement de plus d'une centaine de roquettes sur la ville de Haïfa, à 40 kilomètres de la frontière. L'aviation israélienne a de son côté poursuivi ses frappes nocturnes, devenues quotidiennes sur la banlieue sud de Beyrouth. L'Agence nationale d'information officielle a fait état de destructions massives après une série de raids dans plusieurs quartiers entraînant l'effondrement d'au moins 4 immeubles résidentiels. Les bombardements se sont concentrés dans le nord de la plaine orientale de la Beka, qui enregistre, comme le sud du Liban, un vaste mouvement d'exode des habitants. Dans un bilan communiqué mardi soir, le ministère libanais de la Santé rapporte que les bombardements israéliens dans tout le Liban ont fait la veille 36 morts et 150 blessés.
Paul Khalifet, rendez-vous dans le journal de 6h, temps universel, pour découvrir le reportage à Haïfa de notre envoyé spécial Oriane Verdier.
1 million de personnes évacuées dans l'urgence en Floride aux États-Unis.
C'est une question de vie ou de mort. Avertissement sans appel lancé hier par le président Joe Biden alors que l'ouragan Milton devrait frapper les côtes de la Floride dans le sud-est d'ici la nuit prochaine. Avec des vents à 270 km/h, Milton est classé catégorie 5, la plus élevée, et pourrait être le plus grave cyclone à toucher le pays en un siècle, selon le chef d'État. Alors la population a déserté les rues de Tampa, où l'ouragan devrait frapper en premier, quelques semaines à peine après le passage du cyclone Helene. David Thompson.
Dans les rues de Tampa, la police circule à coups de mégaphone pour inciter les derniers récalcitrants à évacuer. Si vous restez, c'est à vos risques et périls. Quand l'ouragan sera là, dit la police, nous ne serons plus en mesure de vous aider. Mais partir n'est pas évident pour tout le monde. Encore faut-il en avoir les moyens, comme l'explique cette mère de famille à bout de nerfs dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Si je pouvais partir, je le ferais, mais où est-ce que je peux aller avec 6 enfants, 3 adultes, 4 chiens, dans un hôtel? Je n'ai pas les moyens pour ça.
Sur la route, beaucoup de stations-service prises d'assaut sont à sec et à la sortie de Tampa, les embouteillages monstres se sont formés. Nous avons fait 100 km en 4 heures, raconte cette autre mère de famille. Avec deux ouragans majeurs en à peine 2 semaines, l'épuisement commence à gagner les habitants de la côte ouest de Floride, comme l'explique cet homme qui filme la montée des eaux dans son quartier avant même l'arrivée de Milton.
Les gens sont tendus, ils sont encore en train de nettoyer les dégâts de l'ouragan Helene qui vient de ravager la Floride, et maintenant ce qui nous plombe, c'est la peur de ce qui nous attend.
Et depuis la Maison Blanche, Joe Biden lance lui aussi un appel à évacuer. C'est une question de vie ou de mort, c'est peut-être le pire ouragan du siècle, avertit le président des États-Unis. David Thompson, Miami RFI.
Volodymyr Zelensky est attendu dans la journée en Croatie.
Le président ukrainien se déplace à Dubrovnik pour un sommet présenté comme une démonstration du soutien de la région au peuple ukrainien. Cette réunion est aussi destinée à fournir de l'aide militaire à Kiev. Pourquoi pas de nouvelles coopérations dans le domaine de la défense? Alors que l'Ukraine fait toujours face aux assauts russes, 3 personnes sont mortes et 18 autres ont été blessées hier dans des frappes contre Dnipro dans le centre-est. 2 civils ont aussi perdu la vie, 30 autres ont été blessés à Kharkiv. Située à seulement 30 km de la frontière, la deuxième ville du pays est touchée quotidiennement, Emmanuel Chaz.
Une nouvelle fois, les habitants du quartier populaire et industriel de Saltivka à Kharkiv ont été bombardés. Mardi, 6 bombes planantes portant chacune des centaines de kilos d'explosifs se sont abattues sur un immeuble et dans un parc voisin. Un choc pour les résidents secourus après les frappes.
On était juste derrière la maison. On marchait, moi et mon enfant, lorsque j'ai entendu quelque chose dans le ciel. J'ai empoigné mon enfant et on a couru vers la maison. On s'est accroupi et je l'ai protégé avec mes bras quand on a entendu l'explosion.
C'est tombé à peu près 100 mètres, un peu plus et la bombe serait passée directement par nos fenêtres. C'était très effrayant.
On était dans le salon lorsque la bombe est tombée. On venait juste de rentrer de l'enterrement de mon mari. L'appartement avait déjà été détruit alors qu'on venait juste de le rénover. Tout a été endommagé. À un mètre près, mon fils aurait pu mourir, car un énorme bloc de métal a brisé la fenêtre et atterri juste devant lui.
D'autres ont eu moins de chance. 2 personnes âgées qui se promenaient dans le parc ont été tuées dans ces bombardements. À Kharkiv, comme dans le reste de l'Ukraine, les civils n'ont aucun répit. C'est notamment pour cela que Kiev continue de réclamer plus de moyens pour assurer sa défense aérienne. Un sujet qui devait être abordé en fin de semaine lors du sommet de Ramstein en Allemagne, où participeront pour la première fois les dirigeants des pays alliés de l'Ukraine, si ce sommet se tient toujours malgré l'absence du président américain Joe Biden, retenu à Washington en raison de l'ouragan Milton. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
RFI, il est 7h08 à Paris où Michel Barnier est débarrassé d'une première épée de Damoclès.
Le Premier ministre français a réchappé hier de la première motion de censure contre son équipe. Le texte déposé par l'Alliance de gauche du Nouveau Front Populaire n'a pas été soutenu par le Rassemblement National d'extrême droite et n'a récolté que 197 voix sur les 289 requises. Mais ce répit pourrait être de courte durée. Dès demain soir, le gouvernement présentera son projet de budget en Conseil des ministres et ce texte pourrait fâcher la gauche aussi bien qu'une partie de la droite. À Avignon, dans le sud de la France, la cour d'assises tente toujours de cerner la personnalité de Dominique Pellicot. Cet homme est accusé d'avoir drogué sa femme pendant 10 ans à coups de puissants anxiolytiques pour la violer et la faire violer par des dizaines d'autres hommes. Dans ce dossier aussi sordide que colossal, une 50aine de personnes sont jugées et des dizaines d'autres sont entendues par la cour pour jeter la lumière sur les faits. Hier, Tanita Fallet, plusieurs proches de Dominique Pellicot ont pris la parole.
Dominique était un grand manipulateur. Il a manipulé toute sa vie, son entourage, affirme Joël, son frère. Pendant près d'une heure, son témoignage plein de rancœur et celui d'un grand frère lassé par les mensonges du principal accusé, qu'il compare à Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour évoquer sa double personnalité. Un discours marqué par quelques incohérences, mais qui rejoint tout de même celui de 2 hommes qui avaient été contactés par Dominique Pellicot, comme à son habitude via le site Coco, pour qu'ils aient des rapports avec son épouse. Le premier admet avoir eu l'impression d'être face à un homme qui avait 2 personnalités. Le second dira qu'il était directif. C'est d'ailleurs le cœur de la défense des 50 co-accusés de Dominique Pellicot. La plupart affirment s'être fait avoir par son trait manipulateur. A-t-il une capacité à manipuler ? Demande l'un des avocats de la défense au mari de la fille des Pellicot. Et Pierre Pé de répondre « Je n'ai pas ce sentiment, moi, il ne m'a jamais manipulé ». Un gendre qui n'avait rien vu venir, le ciel vous tombe sur la tête, explique celui-ci, pour qui Dominique Pellicot n'existe plus.
Les audiences se poursuivront jusqu'au 20 décembre.
En Tunisie, le président sortant, réélu officiellement avec plus de 90% des voix, et maintenant quoi ?
Moment de flottement dans le pays au surlendemain de la réélection de Kais Saied. Sa victoire à la présidentielle sur fond d'abstention record n'est pas une surprise. Depuis des semaines, une partie de la société civile dénonçait un scrutin verrouillé d'avance après plusieurs années de virage autoritaire. Et l'élection de dimanche laisse craindre un nouveau tour de vis, estime Atem Nafti, essayiste et membre de l'Observatoire tunisien du populisme.
Le président n'a pas fait campagne, il a publié une profession de foi et il a fait une vidéo à la toute fin de campagne jeudi dernier. Dans les deux cas, c'était très violent et il promettait donc d'en finir avec les traîtres, les corrompus. Donc, ce qui ne présage rien de bon pour ce qui est des libertés, étant donné qu'il considère que ses opposants sont par définition des traîtres et des corrompus. Il a redit ça le jour de sa réélection. Et il a même dit que les personnes qui se permettraient de critiquer sa réélection font partie des corrompus. Et l'instance électorale hier a prévenu que toute personne qui dirait que ces élections étaient truquées d'une manière ou d'une autre serait systématiquement poursuivie. Donc je pense que ça annonce un petit peu la couleur. On va plutôt aller vers plus de répression, toujours au nom de cette lutte pour la libération de la Tunisie et pour cette lutte contre la corruption. Donc pour moi, c'est assez clair. Il va y avoir une chape de plomb. On va dire que le peuple est d'accord, étant donné qu'il a été magistralement réélu.
L'analyste Atem Nafti, interrogé par Ouda Ibrahim.
Et pour accompagner votre réveil, si vous le faites avec nous sur RFI, on termine ce journal en musique.
Et si je vous dis Rahim Redcar, ça ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est un artiste qui fait partie du paysage musical français depuis bientôt 15 ans. Souvenez-vous, il a repris Édith Piaf en ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. Il a aussi signé plusieurs tubes ces dernières années. En fait, Rahim Redcar, c'est celui que l'on connaissait avant sous le nom de Christine and the Queens, ou tout simplement Chris. Et il signe donc un nouvel album, Hopecore. José Marinho, une fois de plus, l'artiste se métamorphose.
Derrière Rahim Redcar se cache Héloïse Letissier. L'artiste de 36 ans, originaire de Nantes, avait fait surface en 2010, mais c'est surtout son premier album, sorti 4 ans après, vendu à 1 300 000 exemplaires, qui l'a propulsé au rang de star planétaire, notamment avec cette chanson.
Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas.
Sa voix affirmée s'impose de nouveau sur ce dernier album, taillé pour les pistes de danse. Il suit la quête d'une star qui change fréquemment d'identité et se renouvelle à chaque disque. Chanson française, pop, électro et ici, techno aux accents disco. Pour ce projet, Rahim Redcar opte pour une inspiration brute et spontanée grâce à des rythmes primitifs de synthétiseurs sans âge, comme sur ce morceau qui sonne comme un appel de la chair pour la justice et la liberté de toutes les orientations sexuelles.
Voilà qui donne un peu d'énergie. De bon matin, Rahim Redcar, le choix musical de RFI. Rendez-vous à 7h50, temps universel.
Merci Léa Boutin-Rivière, à tout à l'heure. RFI Matin dans les prochaines minutes, à la une en Asie, surveillance renforcée à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Les titres de la presse française se partagent entre le Liban, Gaza, l'immigration en France et les nouvelles technologies. Reportage aussi à suivre dans RFI Matin à l'occasion d'Octobre Rose, quand les plus jeunes sont sensibilisés au risque de cancer du sein. Mais d'abord, ma petite humeur du mercredi avec la complicité de Christophe Pernet, le gendarme et la mégadette.
La gendarmerie n'a plus l'argent en cette fin d'année, plus l'argent pour régler aux communes les loyers des casernes.
Oh bah ça tombe bien, mon frère est gendarme.
Oui, vous avez bien entendu, la gendarmerie nationale française n'a plus assez d'argent pour payer ses factures.
La semaine dernière, on a reçu un mail de la gendarmerie nationale nous disant que la hiérarchie avait décidé de geler les loyers.
Quoi ? Alors là, c'est le pompon.
C'est vrai, ça l'affiche mal, hein, les képis qui payent plus.
À Gabestany, près de Perpignan, les gendarmes occupent une caserne construite et entretenue par la mairie et ça fait 9 mois que le loyer n'est plus payé, ni les taxes d'ordures ménagères.
Gloire à toi, ô soldat, gendarme vertueux.
La centaine de maires concernés par les gendarmes mauvais payeurs n'en reviennent toujours pas.
Enfin, je vous rappelle quand même que c'est la police et la gendarmerie qu'on envoie chez des locataires qui n'ont pas payé leur loyer pour les faire partir et pour leur dire voilà, vous êtes expulsés. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Là, on marche sur la tête.
Oui, passez-moi la gendarmerie.
Les gendarmes seront-ils appelés par les mairies pour s'auto-expulser? C'est peut-être le prochain épisode.
Le gendarme, c'est l'ordre. L'ordre, c'est toujours impopulaire. Voilà, garde à vous.
Bon, ben, on savait que la France était un peu juste financièrement ces temps-ci.
Sous l'ère Macron, la dette a augmenté d'environ 850 milliards. 850 milliards.
Ce que je trouve est extrêmement grave. Hein. Je pèse mes mots.
La situation aujourd'hui, elle est grave.
La situation est grave.
C'est grave.
Mais alors, que s'est-il passé ?
200 millions d'euros qui étaient prévus pour payer les loyers de la gendarmerie auraient été dépensés autrement.
Les histoires d'Afrique sont toujours simples.
C'est tout simple, on a cramé la caisse, vidé la trésorerie, claqué le budget, parce qu'on a chanté tout l'été.
La sécurisation des Jeux Olympiques, des primes, des heures supplémentaires, mais il y a eu aussi la Nouvelle-Calédonie. Ces éléments-là ont été très très consommateurs de budget.
Et la gendarmerie se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue.
On n'a plus un rond. Si je pouvais faire la pute, je le ferais, mais j'ai même pas de quoi me payer un string. Me dis pas que tu t'en es pas rendu compte, ou alors c'est vraiment que t'as de la merde dans les yeux.
À Saint-Tropez, il est 7h17.
Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre.
À la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique aujourd'hui autour de la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Une frontière de plus en plus surveillée. C'est par là que passent les Nord-Coréens qui veulent s'exiler, faire défection. Mais le passage est de plus en plus difficile. Des patrouilles chinoises sillonnent tout l'arrière-pays rural à la recherche des Nord-Coréens qui auraient pu passer. Ceux qui sont arrêtés sont renvoyés en Corée du Nord. Et on en parle ce matin avec Célio Fioretti, correspondant de RFI à Séoul. En Corée du Sud, donc. Bonjour Célio.
Bonjour Arnaud.
À quoi ressemble le nouveau dispositif de surveillance chinois à la frontière ?
Oui, dans sa nouvelle politique et son budget dédié à la surveillance des immigrés illégaux, la Chine a largement investi dans la frontière nord-coréenne. Pékin a mis en place de nouveaux centres d'expulsion, des centaines de caméras intelligentes à reconnaissance faciale et des patrouilles de bateaux supplémentaires le long de sa frontière de 1400 km avec la Corée du Nord. Pour la première fois, un système de quotas a même été mis en place pour récompenser la capture d'au moins 10 Nord-Coréens et le traitement de leur dossier sous les 30 jours. Pour cela, Pékin cède de toute la technologie à sa disposition. La police chinoise a commencé à surveiller de près les comptes de réseaux sociaux des Nord-Coréens en Chine et à collecter leurs empreintes digitales, leurs voix et leurs données faciales. Avec ce système, il sera désormais beaucoup plus difficile pour les Nord-Coréens de prendre les transports en commun ou de s'afficher en public. Pour de nombreux Nord-Coréens vivant cachés en Chine depuis plusieurs années, en l'attente d'avoir assez de moyens pour changer de pays, la pression des autorités se fera de plus en plus sentir.
Oui, quel est l'intérêt pour la Chine d'arrêter et de renvoyer chez eux ces Nord-Coréens, Célio ?
Environ 70% des transfuges qui ont tenté de rejoindre la Corée du Sud au cours des deux dernières années ont été arrêtés par la police chinoise, contre environ 20% auparavant. Pour Pékin, la répression de l'immigration clandestine l'aide à gérer ses relations avec Pyongyang et la stabilité à la périphérie de la Chine. Cela permet également à Pékin d'exercer une influence potentielle sur son voisin, car la Chine peut contrôler le sort de ses Nord-Coréens sans papier et marchander leur retour. Pourtant, signataire de la Convention de 1951 sur les réfugiés, la Chine est tenue de ne pas refouler les personnes qui risqueraient d'être persécutées ou torturées dans leur pays d'origine. Mais le gouvernement chinois qualifie régulièrement les Nord-Coréens de migrants économiques illégaux afin de les rapatrier de force en vertu d'un protocole frontalier avec le pays.
Oui, alors ça c'est pour le côté chinois. Du côté nord-coréen, la frontière a également été renforcée avec de nouveaux dispositifs de sécurité.
Oui, en effet, depuis la pandémie de Covid-19 et la fermeture de leurs frontières, les deux pays en ont profité pour renforcer leurs mesures de sécurité jusqu'à être pleinement en place cette année. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a renforcé sa sécurité aux frontières pour la rendre moins poreuse. Les images satellites montrent que les autorités nord-coréennes ont construit au moins 482 km de nouvelles clôtures le long de sa frontière en 2023. Les images montrent également de nouveaux postes de garde et la création de zones tampons pour limiter les mouvements. Ces nouvelles infrastructures frontalières s'accompagnent d'une application plus autoritaire des règles, notamment d'un ordre de tir à vue pour les gardes frontières. Ces mesures limitent donc les défections des Nord-Coréens, qui ne sont plus qu'une centaine par an, contre 2000 il y a une dizaine d'années. Autre conséquence également, les réseaux de contrebande qui alimentent le pays sont également mis en difficulté. Pour de nombreux Nord-Coréens, la contrebande et le marché noir sont les moyens de recevoir de la nourriture ou même de l'argent de la part de leurs proches qui ont réussi à sortir du pays ou en revendant des produits à l'étranger.
Oui, merci Célio Fioretti, correspondant de RFI en Corée du Sud pour À la Une en Asie, en direct de Séoul où il est 14h, passé bientôt de 21 minutes, 7h21 à Paris. Un coup d'œil au titre de la presse française de ce mercredi 9 octobre. À la une, le Proche-Orient, les Libanais en détresse, se désole la Croix. Le journal catholique rappelle que 1/5 de la population du Liban a déjà fui l'offensive israélienne. Un exode qui pourrait plonger le pays dans le chaos et la Croix s'inquiète. Face à une superposition de crises depuis 2019, le Liban n'a pas les moyens de répondre aux besoins abyssaux de sa population. Gaza est à la une de Libération ce mercredi. Gaza, un an après, ne pas s'habituer, implore le journal. L'enclave palestinienne est dévastée et n'en finit plus de compter ses morts. Les témoins du désastre racontent la vie au milieu du chaos. Et un constat dans Libé, les gens ont perdu tout espoir. Le Figaro réserve sa une à l'aide médicale de l'État, l'AME, ce dispositif qui est dédié aux immigrés clandestins en France et qui coûte 1,2 milliard d'euros par an, retient le journal, qui détaille ce que le gouvernement veut changer. Le panier de soins devrait évoluer et les contrôles être resserré. Ce système onéreux entraîne fraude et abus, écrit encore le journal conservateur. Et puis dans le Parisien, cette question, votre téléphone vous espionne-t-il? Chacun a déjà eu l'impression qu'il est écouté, que son portable transmet des données à son insu ou que des applis discutent entre elles. Smartphone ni d'espion, c'est un mouchard qu'on a dans nos poches, écrit le journal. Alors le journal a fait le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans tout cela, nos téléphones nous donnent l'impression d'en savoir beaucoup trop sur nous. En fait, tout est remonté vers des entreprises spécialisées dans les publicités en ligne qui peuvent pousser la bonne publicité. C'est ce qu'on apprend ou confirme à la lecture de ce dossier dans le Parisien. Les revues de presse ce matin avec Frédéric Couteau dans RFI Matin. C'est la 31e édition d'Octobre Rose, un mois de campagne mondiale pour sensibiliser au risque de cancer du sein, un mois pour parler prévention et dépistage. Il y a encore des femmes qui ne se surveillent pas et pourtant ce cancer peut frapper même à 30 ans. Alors pour alerter et faire passer le message, l'association Jeunes et Roses propose un atelier baptisé avec humour, l'atelier Pouette Pouette incite les jeunes femmes à l'autopalpation des seins pour détecter au plus tôt une éventuelle tumeur cancéreuse. Reportage de Laurence Théo.
Sur les mannequins juste ici, est-ce que vous remarquez des choses inhabituelles?
Sur la table recouverte d'une nappe rose, des bustes en silicone dont les seins comportent des anomalies. Sur les conseils des animatrices, les jeunes participantes s'essaient à la palpation.
C'est bien avec les trois doigts, mais déjà, est-ce que tu as senti quelque chose sur ce sein?
Oui, on a senti une boule dure au niveau du mamelon.
C'est ça. Alors quand les boules elles sont aussi dures comme ça, comme un caillou, ça c'est une tumeur. C'est pas mobile, ça ne bouge pas. Là où le kyste, vu que c'est du liquide, ça va bouger, ça va être mobile.
Écoulement anormal du mamelon, grosseur, veine apparente, autant de signes pour détecter une éventuelle tumeur que Jennifer ne soupçonnait pas.
J'ai appris pas mal de choses, notamment en fait au niveau de la peau. On voit en fait quand la femme elle a peut-être un début, que la peau peut être modifiée, qu'elle peut ressembler à une peau d'orange, que peut avoir une sorte d'inflammation. Et ça, je ne le savais pas, en fait.
Est-ce que vous aviez l'habitude de palper vos seins?
Non, pas du tout. Mais comme a été dit, en fait, c'est bien de le faire tous les mois, une semaine après les règles.
Vous le ferez?
Je le ferai à partir du mois prochain.
Chaque année en France, 10% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes de moins de 40 ans. Maëlys a participé à l'atelier. Elle pensait que seules les femmes âgées pouvait être atteinte d'un cancer du sein.
Parce qu'on a tendance à entendre, enfin, à se dire cancer, c'est plus quand on est plus âgé.
60
oui.
ans.
Exactement, oui. Alors quand on est jeune, on est plus insouciant.
Visage doux et regard bleu, Mélanie Courtier est la cofondatrice de l'association Jeunes et Roses. Elle a aujourd'hui 40 ans, mais elle a été touchée par la maladie à l'âge de 31 ans, alors qu'elle attendait son deuxième enfant. Elle revient sur la singularité du cancer du sein quand on est une jeune femme.
On a le même problème que toutes les femmes qui ont un cancer du sein, on a toutes le même problème et on n'a pas les mêmes problématiques dans notre quotidien. On a des jeunes femmes de notre asso qui sont étudiantes, qui découvrent qu'elles ont un cancer du sein pendant leurs études. Donc ça compromet leurs études, ça compromet le début de leur vie professionnelle. Celles qui sont déjà mamans et qui doivent en parler à des enfants en bas âge ou gérer un bébé qui fait passer nuit, aller en chimio le lendemain, ce genre de choses. Et il y a celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui voient leur désir de grossesse, leur projet parentaux qui sont soit mis entre parenthèses, soit carrément, malheureusement des fois, balayés par l'arrivée du cancer dans leur vie.
Ce qui est frappant chez les jeunes femmes de l'association Jeunes et Roses, c'est leur combativité, leur énergie et leur humour. Elles souhaitent que leur expérience du cancer du sein serve aux autres dans un esprit de sororité.
Un reportage signé Laurence Théo. À suivre dans 5 minutes l'actualité africaine d'un RFI Matin. Nous irons au Kenya où les députés ont voté la destitution du vice-président, mais la procédure n'est pas bouclée. Le Mozambique aussi avec les élections générales. Aujourd'hui, les bureaux de vote viennent d'ouvrir.
RFI Matin.
Et pour l'heure, la musique, le choix des programmateurs de la maison. Aujourd'hui, le chanteur, compositeur et producteur français Malik Djoudi. Voici extrait de son dernier album « Viens, on prend le temps » en playlist RFI ce mois-ci.
Viens, on prend le temps. Partager sans délai. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ça dépend de la mise en scène.
Malik Djoudi, extrait de son album sorti en septembre, Vivant, et le titre c'est Viens, on prend le temps, en playlist RFI ce mois-ci. Le temps du journal, c'est dans une minute.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Aujourd'hui,
cicatrisation, eczéma, acné, psoriasis, nous parlons des différentes affections de la peau, diagnostic et traitement, et des conseils pour prendre soin de sa peau avec un dermatologue en direct pour répondre à toutes vos questions.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous m'en direz des nouvelles.
Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie. Du lundi au vendredi, culture et découverte s'invitent en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur des trémus.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée.